Chapitre 14 De la suppression des titres de noblesse. Le moins impopulaire des deux ordres privilégiés en France, c'est peut-être encore le clergé. Car le principe moteur de la Révolution étant l'égalité, la nation se sentait moins blessée par les préjugés des prêtres que par les prétentions des nobles. Cependant, rien n'est plus funeste, on ne saurait trop le répéter, que l'influence politique des ecclésiastiques dans un État. Tandis qu'une magistrature héréditaire, dont les souvenirs de la naissance fassent partie, est un élément indispensable de toute monarchie limitée. Mais la haine du peuple contre les gentilshommes ayant éclaté dès les premiers jours de la Révolution, la minorité de la noblesse dans l'Assemblée constituante aurait voulu détruire ce germe d'inimitié et s'unir en tout à la nation. Un soir donc, dans un moment de fermentation, un membre fit la proposition d'abolir tous les titres. Aucun noble du parti populaire ne pouvait se refuser à l'appuyer, sans avoir l'air d'une vanité ridicule. Néanmoins, il serait fort à désirer que les titres, tels qu'ils existaient, n'eussent été supprimés qu'en étant remplacés par la pairie et par les distinctions qui émanent d'elles. Un grand publiciste anglais a dit, avec raison, que toutes les fois qu'il existe dans un pays un principe de vie quelconque, le législateur doit en tirer parti. En effet, comme rien n'est si difficile que de créer, il faut le plus souvent greffer une institution sur une autre. L'Assemblée constituante traitait la France comme une colonie dans laquelle il n'y aurait point eu de passé. Mais quand il y en a un, on ne peut empêcher qu'il naît son influence. La nation française était fatiguée de la noblesse de second ordre. Mais elle aura toujours du respect pour les noms historiques. C'était de ce sentiment qu'il fallait se servir pour établir une chambre haute et tâcher de faire tomber par degrés, en désuétude, toutes ces dénominations de comtes et de marquis qui, lorsqu'elles ne s'attachent ni à des souvenirs ni à des fonctions politiques, ressemblent plutôt à des sobriquets qu'à des titres. L'une des plus singulières propositions de ce jour fut celle de renoncer au nom des terres que plusieurs familles portaient depuis des siècles, pour obliger à reprendre les noms patronymiques. Ainsi, les Montmorency se seraient appelés Bouchard, Lafayette, Mottier, Mirabeau, Riquetti. C'était dépouiller la France de son histoire, et nul homme, quelque démocrate qu'il fût, ne voulait ni ne devait renoncer ainsi à la mémoire de ses aïeux. Le lendemain du jour où ce décret fut porté, les journalistes imprimèrent dans le récit des séances Riquetti l'aîné au lieu du comte de Mirabeau. Il s'approcha furieux des écrivains qui assistaient à l'assemblée et leur dit « Avec votre Riquetti, vous avez désorienté l'Europe pendant 3 jours. » Ce mot encouragea chacun à reprendre le nom de son père. Il eût été difficile de l'empêcher sans une inquisition bien contraire aux principes de l'Assemblée, car on ne doit pas cesser de rappeler qu'elle ne s'est jamais servie des moyens du despotisme pour établir la liberté. M. Necker seul, dans le Conseil d'État, proposa au roi de refuser sa sanction au décret qui anéantissait la noblesse, sans établir le patriciat à sa place. Et, son opinion n'ayant pu prévaloir, il eut le courage de la publier. Le roi avait résolu de sanctionner indistinctement tous les décrets de l'Assemblée. Son système était de se faire considérer, à dater du 6 octobre, comme en état de captivité. Et ce fut seulement pour obéir à des scrupules religieux qu'il ne voulut pas, dans la suite, apposer son nom au décret qui proscrivait les prêtres soumis à la puissance du pape. M. Necker, au contraire, désirait que le roi fît un usage sincère et constant de sa prérogative. Il lui représentait que, s'il reprenait un jour toute sa puissance, il serait toujours le maître de déclarer qu'il avait été prisonnier depuis son arrivée à Paris. Mais que, s'il ne la reprenait pas, il perdrait de sa considération et surtout de sa force dans la nation. En ne faisant pas usage de son veto pour arrêter les décrets inconsidérés de l'Assemblée, décrets dont elle se repentait souvent, dès que la fièvre de la popularité était apaisée. L'objet important pour la nation française, comme pour toutes les nations du monde, c'est que le mérite, les talents et les services puissent élever au premier rang de l'État. Mais vouloir organiser la France d'après les principes de l'égalité abstraite, c'était se priver d'un ressort d'émulation si analogue au caractère des Français, que Napoléon, qui s'en est saisi à sa manière, les a dominés, surtout par là. Le mémoire que M. Necker fit publier à l'époque de la suppression des titres, dans l'été de 1790, était terminé par les réflexions suivantes. En poursuivant, dans les plus petits détails, tous les signes de distinction, on court peut-être le risque d'égarer le peuple sur le véritable sens de ce mot « égalité », qui ne peut jamais signifier, chez une nation civilisée et dans une nation déjà subsistante, égalité de rang ou de propriété. La diversité des travaux et des fonctions, les différences de fortune et d'éducation, l'émulation, l'industrie, la gradation des talents et des connaissances, toutes ces disparités productrices du mouvement social entraînent inévitablement des inégalités extérieures. Et le seul but du législateur est, en imitation de la nature, de les réunir toutes vers un bonheur égal, quoique différent dans ses formes et dans ses développements. Tout s'unit, tout s'enchaîne dans la vaste étendue des combinaisons sociales, et souvent les genres de supériorité qui paraissent un abus au premier regard de la philosophie sont essentiellement utiles pour servir de protection aux différentes lois de subordination, à ces lois qu'il est si nécessaire de défendre, et qu'on attaquerait avec tant de moyens, si l'habitude et l'imagination cessaient jamais de leur servir d'appui. J'aurai par la suite l'occasion de faire remarquer que dans les divers ouvrages publiés par M. Necker pendant l'espace de 20 ans, il a toujours annoncé d'avance les événements qui ont eu lieu depuis, tant la sagacité de son esprit était pénétrante. Le règne du jacobinisme a eu pour cause principale l'enivrement sauvage d'un certain genre d'égalité. Il me semble que M. Necker signalait ce danger lorsqu'il écrivait les observations que je viens de citer. Chapitre 15. De l'autorité royale telle qu'elle fut établie par l'Assemblée constituante. C'était déjà un grand danger pour le repos social que de briser tout à coup la force qui résidait dans les deux ordres privilégiés de l'État. Néanmoins, si les moyens donnés au pouvoir exécutif eussent été suffisants, on aurait pu suppléer par des institutions réelles à des institutions fictives, si je puis m'exprimer ainsi. Mais l'Assemblée, se défiant toujours des intentions des courtisans, organisa l'autorité royale contre le roi, au lieu de la combiner pour le bien public. Le gouvernement était entravé de telle sorte que ses agents, qui répondaient de tout, ne pouvaient agir sur rien. Le ministère avait à peine un huissier à sa nomination, et dans son examen de la Constitution de 1791, M. Necker a montré que le pouvoir exécutif d'aucune république, y compris les petits cantons suisses, n'était aussi limité dans son action constitutionnelle que le roi de France. L'éclat apparent de la couronne et son impuissance réelle jetaient les ministres et le monarque lui-même dans une anxiété toujours croissante. Certes, il ne faut pas que 25 millions d'hommes existent pour un seul, mais il ne faut pas non plus qu'un seul soit malheureux, même sous le prétexte du bonheur de 25 millions. Car une injustice quelconque, soit qu'elle atteigne le trône ou la cabane, rend impossible un gouvernement libre, c'est-à-dire équitable. Un prince qui ne se contenterait pas du pouvoir accordé au roi d'Angleterre ne serait pas digne de régner. Mais dans la Constitution française, la position du roi et de ses ministres était insupportable. L'État en souffrait plus encore que son chef, et cependant l'Assemblée ne voulait ni éloigner le roi du trône, ni faire abnégation de ses défiances passagères quand il s'agissait d'une œuvre durable. Les hommes éminents du Parti populaire ne sachant pas se tirer de cette incertitude, mirent toujours le mal à côté du bien. L'établissement des assemblées provinciales était depuis longtemps désiré, mais l'assemblée constituante les combina de manière à placer les ministres tout à fait en dehors de l'administration. La crainte salutaire de toutes ces guerres, entreprises si souvent pour des querelles de rois, avait dirigé l'assemblée constituante dans l'organisation de l'État militaire. Mais elle avait mis tant d'entraves à l'influence de l'autorité sous ce rapport que l'armée n'aurait pas été en état de servir au dehors, tant on craignait qu'elle ne pût opprimer au dedans. La réforme de la jurisprudence criminelle et l'établissement des jurés faisaient bénir le nom de l'assemblée constituante. Mais elle décréta que les juges seraient à la nomination du peuple et non à celle du roi, et qu'ils seraient réélus tous les 3 ans. Cependant, l'exemple de l'Angleterre et une réflexion éclairée concourent à démontrer que les juges, sous quelque gouvernement que ce soit, doivent être inamovibles, et que dans un gouvernement monarchique, il convient que leur nomination appartienne à la couronne. Le peuple est beaucoup moins en état de connaître les qualités nécessaires pour être homme de loi que celles qu'il faut pour être député. Un mérite ostensible et des lumières universelles doivent désigner à tous les yeux un représentant du peuple, mais de longues études rendent seules capables des fonctions de magistrat. Il importe avant tout que les juges ne puissent être ni destitués par le roi ni renommé ou rejeté par le peuple. Si, dès les premiers jours de la Révolution, tous les partis s'étaient accordés à respecter inviolablement les formes judiciaires, de combien de maux on aurait préservé la France ? Car c'est surtout pour les cas extraordinaires que les tribunaux ordinaires sont établis. On dirait que chez nous, la justice est comme une bonne femme dont on peut se servir dans les jours ouvriers, mais qui ne doit pas paraître dans les occasions solennelles. Et c'est dans ces occasions, cependant, que, les passions étant les plus agitées, l'impassibilité des lois devient plus nécessaire que jamais. Le 4 février 1790, le roi s'était rendu à l'Assemblée pour accepter, dans un discours très bien fait, auquel M. Necker avait travaillé, les principales lois décrétées déjà par l'Assemblée. Mais le roi, dans ce même discours, montrait avec force le malheureux état du royaume, la nécessité d'améliorer et d'achever la Constitution. Cette démarche était indispensable, parce que les conseillers secrets du roi le représentant toujours comme captif, on excitait la défiance du parti populaire sur ses intentions. Rien ne convenait moins à un homme de la moralité de Louis XVI qu'un état présumé de fausseté continuelle. Les prétendus avantages tirés d'un semblable système détruisaient la force réelle de la vertu. Chapitre 16. De la Fédération du 14 juillet 1790. Malgré les fautes que nous venons d'indiquer, l'Assemblée constituante avait opéré tant de bien et triomphé de tant de maux qu'elle était adorée de la France presque entière. Il fallait une grande connaissance des principes de la législation politique pour s'apercevoir de tout ce qui manquait à l'œuvre de la Constitution. Et l'on jouissait de la liberté, quoique les précautions prises pour sa durée ne fussent pas bien combinées. La carrière ouverte à tous les talents excitait l'émulation générale. Les discussions d'une assemblée éminemment spirituelle, le mouvement varié de la liberté de la presse, la publicité sous tous les rapports essentiels, délivraient de ses chaînes l'esprit français, le patriotisme français, enfin toutes les qualités énergiques dont on a vu depuis des résultats quelquefois cruels, mais toujours gigantesques. On respirait plus librement. Il y avait plus d'air dans la poitrine, et l'espoir indéfini d'un bonheur sans entrave s'était emparé de la nation dans sa force, comme il s'empare des hommes dans leur jeunesse, avec illusion et sans prévoyance. La principale inquiétude de l'Assemblée constituante, ayant pour objet les dangers que les troupes de ligne pouvaient faire courir un jour à la liberté, il était naturel qu'elle cherchât de toutes les manières à captiver les milices nationales, puisqu'elle les regardait avec raison comme la force armée des citoyens. D'ailleurs, elle était si sûre de l'opinion publique en 1790 qu'elle aimait à s'entourer des soldats de la patrie. Les troupes de ligne sont une invention tout à fait moderne et dont le véritable but est de mettre entre les mains des rois un pouvoir indépendant des peuples. C'est de l'institution des gardes nationales en France qu'est résultée, dans la suite, la conquête de l'Europe continentale. Mais l'Assemblée constituante, alors, était très loin de souhaiter la guerre, car elle avait beaucoup trop de lumière pour ne pas préférer à tout la liberté. Et cette liberté est inconciliable avec l'esprit d'envahissement et les habitudes militaires. Les 83 départements envoyèrent des députés de leur garde nationale pour prêter serment à la Constitution nouvelle. Elle n'était pas encore achevée, il est vrai, mais les principes qu'elle consacrait avaient pour eux l'assentiment universel. L'enthousiasme patriotique était si vif que tout Paris se portait en foule à la Fédération de 1790, comme l'année précédente à la destruction de la Bastille. C'était dans le Champ de Mars, en face de l'école militaire, et non loin de l'hôtel des Invalides, que la réunion des milices nationales devait avoir lieu. Il fallait élever, autour de cette vaste enceinte, des tertres de gazon pour y placer les spectateurs. Des femmes du premier rang se joignirent à la multitude des travailleurs volontaires qui venaient concourir aux préparatifs de cette fête. Devant l'école militaire, en face de la rivière qui borde le Champ de Mars, on avait placé des gradins avec une tente pour servir d'abri au roi, à la reine et à toute la cour. 83 lances plantées en terre et auxquelles étaient suspendues les bannières de chaque département formaient un grand cercle dont l'amphithéâtre où devait s'asseoir la famille royale faisait partie. On voyait à l'autre extrémité un autel préparé pour la messe que M. de Talleyrand, alors évêque d'Autun, célébra dans cette circonstance. M. de Lafayette s'approcha de ce même autel pour y jurer fidélité à la nation, à la loi et au roi. Et le serment et l'homme qui le prononçait excitèrent un grand sentiment de confiance. Les spectateurs étaient dans l'ivresse. Le roi et la liberté leur paraissaient alors complètement réunis. La monarchie limitée a toujours été le véritable vœu de la France. Et le dernier mouvement d'un enthousiasme vraiment national s'est fait voir à cette fédération de 1790. Toutefois, les personnes capables de réflexion étaient loin de se livrer à la joie générale. Je voyais dans la physionomie de mon père une profonde inquiétude. Dans le moment où l'on croyait fêter un triomphe, peut-être sentait-il qu'il n'y avait déjà plus de ressources. M. Necker ayant sacrifié sa popularité tout entière à la défense des principes d'une monarchie libre et limitée, M. de Lafayette, devant être dans ce jour le premier objet de l'affection du peuple, il inspirait à la garde nationale un dévouement très exalté. Mais, quelle que fût son opinion politique, s'il avait voulu s'opposer à l'esprit du temps, son pouvoir eût été brisé. Les idées régnaient à cette époque et non les individus. La terrible volonté de Bonaparte lui-même n'aurait pu rien contre la direction des esprits. Car les Français, alors, loin d'aimer le pouvoir militaire, auraient obéi bien plus volontiers à une assemblée qu'à un général. Le respect pour la représentation nationale, première base d'un gouvernement libre, existait dans toutes les têtes en 1790, comme si cette représentation eût daté d'un siècle et non d'une année. En effet, si les vérités d'un certain ordre se reconnaissent au lieu de s'apprendre, il doit suffire de les montrer aux hommes pour qu'ils s'y attachent. Chapitre 17. Ce qu'était la Société de Paris pendant l'Assemblée constituante. les étrangers ne sauraient concevoir le charme et l'éclat tant vantés de la société de Paris s'ils n'ont vu la France que depuis 20 ans. Mais on peut dire avec vérité que jamais cette société n'a été aussi brillante et aussi sérieuse tout ensemble que pendant les 3 ou 4 premières années de la Révolution, à compter de 1788 jusqu'à la fin de 1791. Comme les affaires politiques étaient encore entre les mains de la première classe, toute la vigueur de la liberté et toute la grâce de la politesse ancienne se réunissaient dans les mêmes personnes. Les hommes du tiers-état, distingués par leurs lumières et leurs talents, se joignaient à ces gentilshommes, plus fiers de leurs propres mérites que des privilèges de leur corps. Et les plus hautes questions que l'ordre social ait jamais fait naître étaient traitées par les esprits les plus capables de les entendre et de les discuter. Ce qui nuit aux agréments de la société en Angleterre, ce sont les occupations et les intérêts d'un État depuis longtemps représentatif. Ce qui rendait, au contraire, la société française un peu superficielle, c'était les loisirs de la monarchie. Mais tout à coup, la force de la liberté vint se mêler à l'élégance de l'aristocratie. Dans aucun pays, ni dans aucun temps, l'art de parler, sous toutes ses formes, n'a été aussi remarquable que dans les premières années de la Révolution. Les femmes, en Angleterre, sont accoutumées à se taire devant les hommes, quand il est question de politique. Les femmes, en France, dirigeaient chez elles presque toutes les conversations, et leur esprit s'était formé de bonne heure à la facilité que ce talent exige. Les discussions sur les affaires publiques étaient donc adoucies par elles, et souvent entremêlées de plaisanteries aimables et piquantes. L'esprit de parti, il est vrai, divisait la société, mais chacun vivait avec les siens. À la cour, les deux bataillons de la bonne compagnie, l'un fidèle à l'ancien régime et l'autre partisan de la liberté, se rangeaient en présence et ne s'approchaient guère. Il m'arrivait quelquefois, par un esprit d'entreprise, d'essayer quelque mélange des deux partis, en faisant dîner ensemble les hommes les plus spirituels des bancs opposés, car on s'entend presque toujours à une certaine hauteur. Mais les choses devenaient trop graves pour que cet accord, même momentané, pût se renouveler facilement. L'Assemblée constituante, comme je l'ai déjà dit, ne suspendit pas un seul jour la liberté de la presse. Ainsi, ceux qui souffraient de se trouver constamment en minorité dans l'Assemblée avaient au moins la satisfaction de se moquer de tout le parti contraire. Leurs journaux faisaient de spirituels calembours sur les circonstances les plus importantes. C'était l'histoire du monde changée en commérage. Tel est partout le caractère de l'aristocratie des cours. Néanmoins, comme les violences qui avaient signalé les commencements de la Révolution s'étaient promptement apaisées, et qu'aucune confiscation, aucun jugement révolutionnaire n'avait eu lieu, chacun conservait encore assez de bien-être pour se livrer au développement entier de son esprit. Les crimes, dont on a souillé depuis la cause des patriotes, n'oppressaient pas alors leur âme, et les aristocrates n'avaient point encore assez souffert pour qu'on n'osât plus même avoir raison contre eux. Tout était en opposition dans les intérêts, dans les sentiments, dans la manière de penser. Mais, tant que les échafauds n'avaient point été dressés, la parole était encore un médiateur acceptable entre les deux parties. C'est la dernière fois, hélas, que l'esprit français se soit montré dans tout son éclat. C'est la dernière fois, et à quelques égards aussi la première, que la société de Paris ait pu donner l'idée de cette communication des esprits supérieurs entre eux, la plus noble jouissance dont la nature humaine soit capable. Ceux qui ont vécu dans ce temps ne sauraient s'empêcher d'avouer qu'on n'a jamais vu ni tant de vie, ni tant d'esprit, nulle part. L'on peut juger, par la foule d'hommes de talent que les circonstances développèrent alors, ce que seraient les Français s'ils étaient appelés à se mêler des affaires publiques, dans la route tracée par une constitution sage et sincère. On peut mettre en effet dans les institutions politiques une sorte d'hypocrisie qui condamne, dès qu'on se trouve en société, à se taire ou à tromper. La conversation en France est aussi gâtée depuis 15 ans par les sophismes de l'esprit de parti et par la prudence de la bassesse, qu'elle était franche et spirituelle lorsqu'on abordait hardiment toutes les questions les plus importantes. On n'éprouvait alors qu'une crainte, celle de ne pas mériter assez l'estime publique. Et cette crainte agrandit les facultés au lieu de les comprimer. Chapitre 18. De l'établissement des assignats et de la retraite de M. Necker. Les membres du comité des finances proposèrent à l'Assemblée constituante d'acquitter les dettes de l'État en créant 1800 millions de billets avec un cours forcé assigné sur les biens du clergé. C'était une manière fort simple d'arranger les finances. Toutefois, il était probable qu'en se débarrassant ainsi des difficultés que présente toujours l'administration d'un grand pays, l'on dépenserait un capital énorme en peu d'années et que l'on alimenterait, par la disposition de ce capital, des révolutions nouvelles. En effet, sans une ressource d'argent aussi immense, ni les troubles intérieurs, ni la guerre au dehors n'auraient eu lieu si facilement. Plusieurs des députés qui engageaient l'Assemblée constituante à cette énorme émission de papier-monnaie n'en prévoyaient point, assurément, les suites funestes. Mais ils aimaient le pouvoir que la jouissance d'un tel trésor allait leur donner. M. Necker s'opposa fortement à l'établissement des assignats. D'abord, comme nous l'avons déjà rappelé, il n'approuvait pas la confiscation de tous les biens ecclésiastiques, et il en aurait toujours excepté, selon sa manière de voir, les archevêchés, les évêchés et surtout les presbytères, car les curés n'ont jamais été assez payés en France, bien qu'ils soient entre les prêtres la classe la plus utile. Les suites d'un papier-monnaie, sa dépréciation graduelle et les spéculations immorales auxquelles cette dépréciation donnait lieu étaient développées dans le mémoire de M. Necker avec une force que l'événement n'a que trop confirmée. Les loteries, contre lesquelles, avec raison, plusieurs membres de l'Assemblée constituante se prononcèrent, et M. l'évêque d'Autun en particulier, ne sont qu'un simple jeu de hasard, tandis que le gain qui résulte de la variation continuelle du papier-monnaie se fonde presque entièrement sur l'art de tromper à chaque instant du jour, soit relativement au change, soit relativement à la valeur des marchandises. Et les gens du peuple, transformés en agioteurs, se dégoûtent du travail par un gain trop facile. Enfin, les débiteurs qui s'acquittent d'une manière injuste ne sont plus des hommes d'une probité parfaite dans aucune autre relation de la vie. M. Necker prédit en 1790 tout ce qui est arrivé depuis relativement aux assignats, la détérioration de la fortune publique par le vil prix auquel les biens nationaux seraient vendus, et ses ruines et ses richesses subites qui altèrent nécessairement le caractère de ceux qui perdent comme de ceux qui gagnent. Car une si grande latitude de crainte et d'espérance donne à la nature humaine de trop violentes agitations. En s'opposant au projet du papier-monnaie, M. Necker ne se renferma point dans le rôle aisé de l'attaque. Il proposa, comme moyen de remplacement, l'établissement d'une banque dont on a depuis adopté les principales bases et dans laquelle il faisait entrer pour gage une portion des biens du clergé, suffisante pour remettre les finances dans l'état le plus prospère. Il insista fortement aussi, mais en vain, pour que les membres du bureau de la trésorerie fussent admis dans l'Assemblée, afin qu'ils puissent discuter les questions de finances en l'absence du ministre, qui n'avait pas le droit d'y siéger. Enfin, M. Necker, avant de quitter sa place, se servit une dernière fois du respect qu'il inspirait pour refuser positivement à l'Assemblée constituante et en particulier au député Camus la connaissance du livre rouge. Ce livre contenait les dépenses secrètes de l'État sous le règne précédent et sous celui de Louis XVI. il n'y avait pas un seul article ordonné par M. Necker. Et ce fut lui, cependant, qui soutint la plus désagréable lutte pour obtenir que l'Assemblée ne fût pas mise en possession d'un registre qui attestait les torts de Louis XV et la trop grande bonté de Louis XVI. Sa bonté seulement, car M. Necker eut soin de faire savoir que, dans l'espace de 16 années, la reine et le roi n'avaient pris pour eux-mêmes que 11 millions sur ces dépenses secrètes. Mais plusieurs personnes vivantes pouvaient être compromises par la connaissance des sommes considérables qu'elles avaient reçues. Ces personnes étaient précisément les ennemis de M. Necker, parce qu'il avait blâmé les largesses de la cour envers elles. Et ce fut cependant lui seul qui osa déplaire à l'Assemblée en s'opposant à la publicité des fautes de ses antagonistes. Tant de vertus en tout genre, générosité, désintéressement, persévérance, avaient été récompensées dans d'autres temps par l'opinion publique et méritaient de l'être plus que jamais. Mais ce qui doit inspirer un profond intérêt à quiconque a conçu la situation de M. Necker, c'est de voir un homme du plus beau génie et du plus beau caractère placé entre des partis tellement opposés et des devoirs si différents que le sacrifice entier de lui-même, de sa réputation et de son bonheur ne pouvait rapprocher ni les préjugés des principes ni les opinions des intérêts. Si Louis XVI s'en fut remis véritablement au conseil de M. Necker, il eût été du devoir de ce ministre de ne pas demander sa démission. Mais les partisans de l'ancien régime conseillaient alors au roi, comme ils le feraient peut-être encore aujourd'hui, de ne jamais suivre les avis d'un homme qui avait aimé la liberté. C'est à leurs yeux le crime irrémissible. D'ailleurs, M. Necker s'aperçut que le roi, mécontent de la part qu'on lui faisait dans la Constitution, lassé de la conduite de l'Assemblée, avait résolu de se soustraire à une telle situation. S'il se fût adressé à M. Necker pour concerter avec lui son départ, sans doute son ministre aurait cru devoir le seconder de toutes ses forces, tant la position du monarque lui paraissait cruelle et dangereuse. Et cependant, il était fort contraire au penchant naturel d'un homme appelé par le vœu national de passer sur le territoire étranger. Mais le roi et la reine, ne lui parlant pas de leur projet à cet égard, devaient-ils provoquer la confidence? Les choses en étaient venues à cet excès qu'il fallait être factieux ou contre-révolutionnaire pour avoir de l'influence. Et ni l'un ni l'autre de ces rôles ne pouvait convenir à M. Necker. Il prit donc la résolution de se retirer, et sans doute à cette époque il le devait. Mais constamment guidé par le désir de porter le dévouement à la chose publique aussi loin qu'il était possible, il laissa 2 millions de sa fortune en dépôt au trésor royal, précisément parce qu'il avait prédit que le papier-monnaie, avec lequel on payerait les rentes, serait dans peu sans valeur. Il ne voulait pas nuire, comme particulier, à l'opération qu'il blâmait comme ministre. Si M. Necker eût été très riche, cette façon d'abandonner sa fortune aurait encore été fort remarquable. Mais comme ces 2 millions formaient plus de la moitié d'une fortune diminuée par 7 années de ministère sans appointement, on s'étonnera peut-être qu'un homme qui avait acquis son bien par lui-même eût ainsi le besoin de le sacrifier au moindre sentiment de délicatesse. Mon père partit le 8 septembre 1790. Je ne pus le suivre alors, parce que j'étais malade, et la nécessité de rester me fut d'autant plus pénible que je craignais les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans sa route. En effet, 4 jours après son départ, un courrier m'apporta une lettre de lui qui m'annonçait son arrestation à Arcis-sur-Aube. Le peuple, convaincu qu'il n'avait perdu son crédit dans l'Assemblée que pour avoir immolé la cause de la nation à celle du roi, voulut l'empêcher de continuer sa route. Ce qui faisait surtout souffrir M. Necker dans cette circonstance, c'étaient les mortelles inquiétudes que sa femme ressentait pour lui. Elle l'aimait avec un sentiment si sincère et si passionné qu'il se permit, peut-être à tort, de parler d'elle et de sa douleur dans la lettre qu'il adressa en partant à l'Assemblée. Le temps ne se prêtait guère, il faut en convenir, aux affections domestiques. Mais cette sensibilité qu'un grand homme d'État n'a pu contenir dans toutes les circonstances de sa vie était précisément la source de ses qualités distinctives, la pénétration et la bonté. Quand on est capable d'émotions vraies et profondes, on n'est jamais enivré par le pouvoir. Et c'est à cela surtout qu'on reconnaît dans un ministre une véritable grandeur d'âme. L'Assemblée constituante décida que M. Necker continuerait sa route. Il fut mis en liberté et se rendit à Bâle, mais non sans courir encore de grands risques. Il fit ce cruel voyage par le même chemin, à travers les mêmes provinces où, 13 mois auparavant, il avait été porté en triomphe. Les aristocrates ne manquèrent pas de se glorifier de ses peines, sans songer, ou plutôt sans vouloir s'avouer, qu'il s'était mis dans cette situation pour les défendre, et pour les défendre seulement par esprit de justice, car il savait bien que rien ne pouvait les ramener en sa faveur. Et certes, ce n'était pas dans cette espérance, mais par attachement à son devoir, qu'il avait sacrifié volontairement, en 13 mois, une popularité de 20 années. Il s'en allait le cœur brisé, en ayant perdu le fruit d'une longue carrière. Et la nation française, aussi, ne devait peut-être jamais retrouver un ministre qui l'aimât d'un sentiment pareil. Qu'y avait-il donc de si satisfaisant pour personne dans un tel malheur ? Quoi ? S'écrieront les incorrigibles, n'était-il pas partisan de cette liberté qui nous a fait tant de mal ? Assurément, je ne vous dirai point tout le bien que cette liberté vous aurait fait, si vous aviez voulu l'adopter quand elle se présentait à vous, pure et sans tache. Mais, en supposant que M. Necker se fût trompé avec Caton et Sydney, avec Chatham et Washington, une telle erreur, qui a été celle de toutes les âmes généreuses depuis 2000 ans, devrait-elle étouffer toute reconnaissance pour ses vertus ? Chapitre 19. De l'état des affaires et des partis politiques dans l'hiver de 1790 à 1791. Dans toutes les provinces de France, il éclatait des troubles causés par le changement total des institutions et par la lutte entre les partisans de l'ancien et du nouveau régime. Le pouvoir exécutif faisait le mort, selon l'expression d'un député du côté gauche de l'Assemblée, parce qu'il espérait, mais à tort, que le bien pourrait naître de l'excès même du mal. Les ministres se plaignaient sans cesse des désordres, et quoiqu'ils eussent peu de moyens pour s'y opposer, encore ne les employaient-ils pas, se flattant que le malheureux état des choses obligerait l'Assemblée à rendre plus de force au gouvernement. L'Assemblée, qui s'apercevait de ce système, s'emparait de toutes les affaires administratives, au lieu de s'en tenir à faire des lois. Après la retraite de M. Necker, elle demanda le renvoi des ministres. Et dans ses décrets constitutionnels, ne songeant qu'à la circonstance, elle ôtait successivement au roi la nomination de tous les agents du pouvoir exécutif. Elle mettait en décret sa mauvaise humeur contre telle ou telle personne, croyant toujours à la durée du présent, comme presque tous les hommes en puissance. Les députés du côté gauche disaient « Le chef du pouvoir exécutif en Angleterre a des agents nommés par lui, tandis que le pouvoir exécutif de France, non moins puissant et plus heureux, aura l'avantage de ne commander qu'aux élus de la nation et d'être ainsi plus intimement unis avec le peuple. » Il y a des phrases pour tout, particulièrement dans le français, qui a tant servi pour tant de buts divers et momentanés. Rien n'était si simple, cependant, que de démontrer que l'on ne peut commander à des hommes sur le sort desquels on n'a pas d'influence. Cette vérité n'était avouée que par le parti aristocratique. Mais il se rejetait dans l'extrême opposé, en ne reconnaissant pas la nécessité de la responsabilité des ministres. Une des plus grandes beautés de la Constitution anglaise, c'est que chaque branche du gouvernement y est tout ce qu'elle peut être, le roi, les pairs et les communes. Les pouvoirs y sont égaux entre eux, non par leur faiblesse, mais par leur force. Dans tout ce qui ne tenait pas à l'esprit de parti, l'Assemblée constituante montrait le plus haut degré de raison et de lumière. Mais il y a quelque chose de si violent dans les passions, que la chaîne des raisonnements en est brisée. De certains mots allument le sang, et l'amour-propre fait triompher les satisfactions éphémères sur tout ce qui pourrait être durable. La même défiance contre le roi, qui entravait la marche de l'administration et de l'ordre judiciaire, se faisait encore plus sentir dans les décrets relatifs à la force militaire. On fomentait volontairement l'indiscipline dans l'armée, tandis que rien n'était si facile que de la contenir. On en vit la preuve dans l'insurrection du régiment de Châteauvieux. Il plut à l'Assemblée constituante de réprimer cette révolte, et dans peu de jours, ses ordres furent exécutés. M. de Bouillé, officier d'un vrai mérite, dans l'ancien régime, à la tête des troupes restées fidèles, força les soldats insurgés à rendre la ville de Nancy dont ils s'étaient emparés. Ce succès, qu'on devait seulement à l'ascendant des décrets de l'Assemblée, donna de fausses espérances à la cour. Elle imagina, et M. de Bouillé ne manqua de l'entretenir dans cette illusion, que l'armée ne demandait pas mieux que de rendre au roi son ancien pouvoir. Et l'armée, comme toute la nation, voulait des limites à la volonté d'un seul. À dater de l'expédition de M. de Bouillé, pendant l'automne de 1790, la cour entra en négociation avec lui, et l'on se flatta de pouvoir amener de quelque manière Mirabeau à se concerter avec ce général. La cour se figurait que le meilleur moyen d'arrêter la révolution était d'en gagner les chefs. Mais cette révolution n'avait que des chefs invisibles, c'étaient les croyances à de certaines vérités, et nulle séduction ne pouvait les atteindre. Il faut transiger avec les principes en politique et ne pas s'embarrasser des individus qui se placent d'eux-mêmes dès qu'on a bien dessiné le cadre dans lequel ils doivent entrer. Le Parti populaire, de son côté, sentait cependant qu'il était entraîné trop loin et que les clubs, qui s'établissaient hors de l'Assemblée, commençaient à donner des lois à l'Assemblée elle-même. Dès qu'on admet, dans un gouvernement, un pouvoir qui n'est pas légal, il finit toujours par être le plus fort, comme il n'a d'autre fonction que de blâmer ce qui se fait, et non d'agir lui-même. Il ne prête point à la critique, et il a pour partisans tous ceux qui désirent un changement dans l'État. Il en est de même des esprits forts, qui attaquent toutes les religions, mais qui ne savent que dire quand on leur demande de mettre un système quelconque à la place de ceux qu'ils veulent renverser. Il ne faut pas confondre ces autorités en dehors, dont l'existence est si nuisible, avec l'opinion qui se fait sentir partout, mais ne se forme encore politique nulle part. Les clubs des Jacobins étaient organisés comme un gouvernement, plus que le gouvernement lui-même. Ils rendaient des décrets. Ils étaient affiliés par la correspondance dans les provinces avec d'autres clubs non moins puissants. Enfin, on devait les considérer comme la mine souterraine, toujours prête à faire sauter les institutions existantes quand l'occasion s'en présenterait. Le parti des Lamettes, de Barnave et de Duport, le plus populaire de tous après les Jacobins, était pourtant déjà menacé par les démagogues d'alors, qui allaient être à leur tour considérés l'année suivante, à quelques exceptions près, comme des aristocrates. L'Assemblée, néanmoins, rejeta toujours avec persévérance les mesures proposées dans les clubs contre l'émigration, contre la liberté de la presse, contre les réunions des nobles. Jamais, à son honneur, on ne saurait se lasser de le répéter, elle n'adopta la terrible doctrine de l'établissement de la liberté par le despotisme. C'est à ce détestable système qu'il faut attribuer la perte de l'esprit public en France. Monsieur de Lafayette et ses partisans ne voulurent point aller au club des Jacobins. Et pour balancer son influence, ils tâchèrent de fonder une autre réunion appelée le club de 1789, où les amis de l'ordre et de la liberté devaient se rassembler. Mirabeau, quoiqu'il eût d'autres vues personnelles, venait à ce raisonnable club, qui pourtant fut désert en peu de temps, parce qu'aucun intérêt actif n'y appelait personne. On était là pour conserver, pour réprimer, pour arrêter. Mais ce sont les fonctions d'un gouvernement, et non pas celles d'un club. Les monarchistes, c'est-à-dire les partisans d'un roi et d'une constitution, auraient dû naturellement se rattacher à ce club de 1789. Mais Seyès et Mirabeau, qui en étaient, n'auraient consenti pour rien au monde à se dépopulariser en se rapprochant de Malouet, de Clermont-Tonnerre, de ces hommes qui étaient aussi opposés à l'impulsion du moment que d'accord avec l'esprit du siècle. Les modérés se trouvaient donc divisés en deux ou trois sections différentes, tandis que les attaquants étaient presque toujours réunis. Les sages et courageux partisans des institutions anglaises se voyaient repoussés de toutes parts parce qu'ils n'avaient pour eux que la vérité. On peut cependant trouver dans le Moniteur du temps les aveux précieux des coryphées du côté droit sur la constitution anglaise. L'abbé Maury dit « La constitution anglaise, que les amis du trône et de la liberté doivent également prendre pour modèle. » Cazalès dit « L'Angleterre, ce pays dans lequel la nation est aussi libre que le roi est respecté. » Enfin, tous les défenseurs des vieux abus, se voyant menacés d'un danger beaucoup plus grand que la réforme de ces abus même, exaltaient alors le gouvernement anglais autant qu'ils l'avaient déprécié 2 ans plus tôt, lorsqu'il aurait été si facile de l'obtenir. Les privilégiés ont renouvelé cette manœuvre plusieurs fois, mais toujours sans inspirer de confiance. Les principes de la liberté ne sauraient être une affaire de tactique, car il y a quelque chose qui tient du culte dans le sentiment dont les âmes sincères sont pénétrées pour la dignité de l'espèce humaine.